Mon balado précédent, qui s'intitulait « Washington, une capitale faite sur mesure », parlait des débuts de la ville de Washington, de sa construction, et sauf pour le dernier chapitre, j'ai arrêté mon histoire au moment de la guerre de sécession américaine qui débute en 1861. Je ne vous ai donc pas parlé d'un des événements les plus marquants de l'histoire de la ville, l'assassinat, en plein théâtre, devant un parterre rempli de spectateurs, du président des États-Unis Abraham Lincoln en avril 1865. Lincoln est né dans la pauvreté en 1809 dans l'État du Kentucky. Sa famille se déplace d'un endroit à l'autre. On va vivre notamment en squatter sur des terres publiques en Indiana. Il disait avoir complété à peu près un an de scolarité. Quand on mettait tout ensemble pendant sa jeunesse, il s'est essentiellement éduqué lui-même. Après s'être installé en Illinois à l'âge adulte, il devient un avocat en vue. Il gagne bien sa vie. Il se fait d'abord élire à la Chambre d'Assemblée de l'Illinois, puis il va servir un mandat de 2 ans à la Chambre des représentants des États-Unis. C'était l'entièreté de son expérience politique sur la scène nationale lorsqu'il est choisi comme candidat du tout nouveau Parti républicain qui avait été créé quelques années plus tôt en vue de l'élection présidentielle de 1860. Franchement, il fallait être un peu fou pour vouloir devenir président des États-Unis à ce moment-là. Ça fait des décennies qu'on se déchire entre politiciens du Nord, où l'esclavage a été aboli, où l'industrie prend de plus en plus de place, et ceux du Sud esclavagistes, où l'économie repose très largement sur l'agriculture. Le contentieux Nord-Sud ne porte pas sur l'abolition de l'esclavage à proprement parler. Les politiciens des deux blocs votent au Congrès pour favoriser le modèle économique de leur région, ça va de soi, mais les intérêts des uns et des autres sont tellement divergents que les compromis sont presque impossibles à obtenir. Le pays s'agrandit rapidement pendant les premières décennies du 19e siècle, et à chaque fois qu'on ajoute des États ou des territoires, c'est la bataille pour savoir si ces nouvelles terres seront esclavagistes ou non. Un nouvel État où on permet l'esclavage, ça voulait dire de nouveaux politiciens qui viennent grossir le bloc sudiste et vice-versa. On assiste donc à un affrontement pour le contrôle des leviers économiques du pays, plus qu'à une noble croisade portée par de grands idéaux. La politique, on fera pas semblant, c'est rarement une noble croisade portée par de grands idéaux. La situation atteint un point critique au moment de la présidentielle de 1860. Même si Lincoln ne proposait pas d'abolir l'esclavage, même s'il s'était déjà prononcé contre le vote des Noirs, contre les mariages mixtes, il était farouchement opposé à l'expansion de la pratique, et ça, c'était trop pour les gens du Sud. Toutefois, le Parti démocrate, qui à ce moment-là était le parti des conservateurs et des planteurs du Sud, se fracture. 3 candidats vont se partager les États esclavagistes, et Lincoln est élu président uniquement grâce au vote des États du Nord. En fait, il n'a obtenu aucun vote dans 9 des États du sud du pays. Et par aucun vote, je ne veux pas dire au collège électoral, ce système abscon qui gère encore aujourd'hui les élections présidentielles américaines, dans les États de l'Alabama, de l'Arkansas, de la Géorgie, de la Floride, de la Louisiane, du Mississippi, de la Caroline du Nord, du Tennessee et du Texas, personne n'a voté pour Lincoln. 0. Une situation unique dans l'histoire du pays. Entre son élection en novembre 1860 et son inauguration 5 mois plus tard, il y a 7 États qui ont fait sécession pour former les États confédérés d'Amérique. La crise avait atteint un point de non-retour. Et lorsque les confédérés s'attaquent à une forteresse de Caroline du Sud qui était toujours sous contrôle du gouvernement de Washington, il devient évident que le conflit allait se régler par les armes. Les États-Unis d'Amérique ne permettraient pas aux États confédérés d'Amérique de perdurer. En 1863, Lincoln déclare que tous les esclaves des États du Sud sont maintenant libres. C'est la proclamation d'émancipation. Il a aussi travaillé à faire adopter le 13e amendement à la Constitution abolissant l'esclavage dans le pays. Ceci dit, il faut noter que sa proclamation d'émancipation de 1863 ne s'appliquait qu'aux États qui demeuraient dans la Confédération à ce moment-là. Dans les États esclavagistes qui étaient restés au sein de l'Union et dans les portions des États confédérés qui avaient été conquises par le gouvernement fédéral, les esclaves n'étaient toujours pas libres. Il y avait donc un côté étapiste à son approche. Et de toute manière, ces mesures demeuraient incomplètes tant que la guerre ne serait pas gagnée. Elle a été très longue, très coûteuse, cette guerre. Au début de 1864, année électorale, l'étoile d'Abraham Lincoln en tant que commandant en chef des armées qui ne venait pas à bout de mater cette rébellion avait beaucoup pâli, au point où il pensait se diriger vers une défaite. Mais une série d'événements, dont la prise de la ville d'Atlanta, un des grands centres des États confédérés en septembre 1864, qui laissait entrevoir un dénouement prochain à la guerre, a assuré sa réélection. La victoire de l'Union est confirmée en avril 1865 avec la prise de la capitale confédérée, Richmond, en Virginie, et la capitulation du général en chef de facto des armées du Sud, Robert E. Lee. Ça entraîne de grandes célébrations à travers le Nord, tout particulièrement à Washington, et parmi ceux et celles qui ont assisté aux réjouissances se trouvait le deuxième acteur, et je le dis sans jeu de mots, de la tragédie qui allait bientôt s'écrire. Il s'appelait John Wilkes Booth, 26 ans, et je dis que je ne veux pas faire de jeu de mots parce que Booth était un comédien de théâtre réputé, il faisait partie d'une des grandes familles artistiques des États-Unis à ce moment-là. Il était originaire du Maryland, état esclavagiste qui n'avait pas fait sécession, c'est un état, on disait, sur la frontière entre le Nord et le Sud, mais Booth était personnellement, farouchement, pro-esclavage. Il détestait les abolitionnistes, ceux et celles qui prônaient l'abolition de la pratique, et détestait par-dessus tout Abraham Lincoln, qu'il considérait comme un tyran et comme la source de tous les maux du pays. Avec un groupe de sympathisants sudistes, il va élaborer un projet d'enlèvement du président des États-Unis, un plan nettement trop ambitieux. Ses complices potentiels lui disent « ça n'a aucune chance de fonctionner ». Mais dans la journée du 14 avril, 5 jours après la fin effective de la guerre, Booth se rend au théâtre Ford, qui est situé à quelques coins de rue de la Maison-Blanche, et il apprend que le président Lincoln va assister à la représentation de la soirée. Voilà l'opportunité que Booth attendait pour venger la Confédération. Il enverrait 2 de ses complices assassiner le vice-président et le secrétaire d'État du pays, alors que lui, qui connaissait bien le théâtre Ford pour y avoir déjà joué et pouvait y entrer à sa guise en tant que comédien célèbre, s'était donné le rôle principal, assassiner Abraham Lincoln. On est à une époque où le président n'est pas continuellement entouré d'un bataillon de gardes du corps comme c'est le cas aujourd'hui. Booth va se rendre sans difficulté dans une antichambre de la loge présidentielle qui était située tout juste à côté de la scène. On joue la pièce « My American Cousin ». Booth connaît bien le texte. Il va attendre à un moment précis où il y a un grand éclat de rire dans la salle. Il entre dans la loge et tire une balle dans la tête de Lincoln. L'assassin saute ensuite sur la scène depuis la loge présidentielle et pour ajouter à la mise en scène de toute l'affaire, il se serait exclamé à l'adresse du public « Sic semper tyrannis ». Ainsi en est-il toujours des tyrans, la devise de l'État sudiste de la Virginie, à moins qu'il se soit écrié « Le Sud est vengé », il y a débat là-dessus. Il profite de la confusion pour sortir par une porte arrière et enfourche son cheval qui l'attendait dans une ruelle. Plusieurs médecins se trouvaient dans la salle, ils accourent auprès du président, on va vite conclure que la blessure est mortelle et qu'il n'y a rien à faire. Lincoln ne sera pas ramené à la Maison-Blanche ou dans un quelconque hôpital, en fait, on le transporte dans une pension située de l'autre côté de la rue où on doit l'installer en diagonale sur un lit. Il était très grand, on n'avait pas de lit à sa taille, et il va rendre l'âme le lendemain matin. S'amorce alors une chasse à l'homme sans précédent. Le gouvernement fédéral offrait une récompense de $50,000 pour l'arrestation de Booth, ce qui est une somme inouïe pour l'époque. On rappelle aussi que toute forme d'assistance aux fugitifs pourrait être passible de la peine de mort. Et l'assassin, qui pensait accomplir la volonté de Dieu, sera très déçu de constater en lisant les journaux depuis ses différentes cachettes dans les boisés et les marais des environs qu'on ne le considérait pas comme un héros et que tout le monde voulait sa peau. Il réussira à échapper aux autorités pendant 11 jours avant d'être cerné dans une ferme de la Virginie et d'être abattu. 4 de ses complices, dont ceux qui avaient échoué à tuer le secrétaire d'État et le vice-président, seront reconnus coupables et pendus. La mort d'Abraham Lincoln a déclenché une déferlante de tristesse, je pense que le mot n'est pas trop fort, à travers, à tout le moins, le nord du pays. C'était la première fois qu'un président en exercice était abattu, c'est arrivé 3 fois depuis, Et ce n'était pas n'importe quel président Lincoln, victorieux dans les bureaux de vote et sur le champ de bataille, celui qui avait réussi à garder le pays ensemble, qui est assassiné en pleine gloire. Si ça avait eu lieu, par exemple, un an plus tôt, alors que la guerre traînait en longueur et que sa popularité était au plus bas, la réaction n'aurait pas nécessairement été la même. Il va prendre un côté mythique, d'autant plus que l'assassinat a lieu un vendredi saint. Les ministres du culte ne se sont pas gênés pour faire un parallèle entre le président qui s'est sacrifié pour nous et Jésus, dont le vendredi saint rappelle la mort sur la croix pour nos péchés. Le corps de Lincoln est exposé à Washington, puis on lui a fait faire un long trajet en train jusqu'à l'Illinois, sa terre d'adoption. Ça dure 13 jours. On parade et expose le défunt dans 10 différentes villes. Ce sont des centaines et des centaines de milliers d'Américains et d'Américaines qui ont rendu un dernier hommage à Abraham Lincoln. Des masses de gens debout le long des voies de chemin de fer, souvent seulement pour apercevoir le train funéraire. Abraham Lincoln avait déclaré pendant le conflit « Cette guerre me tue, je ne suis pas certain de survivre assez longtemps pour en voir la fin. » Il a vu la fin de la guerre. De justesse, elle n'était même pas terminée depuis une semaine au moment de son décès.